cette pandémie de caractère viral a suscité un phénomène mondial multidimensionnel qui concerne pas seulement la santé, mais même la vie quotidienne avec les confinements qui ont posé le problème de la relation au travail, le problème du mode de vie que l'on avait précédemment, des problèmes d'une crise économique, d'une crise de la mondialisation qui a montré qu'elle n'a pas créé de solidarité internationale. Cette crise oblige, que moi j'appelle une pensée complexe, capable de relier les aspects divers et de ne pas séparer le sanitaire de l'économique, du psychologique, voire même du religieux, puisque le religieux a été frappé dans les cérémonies. Enfin, tous les aspects de la vie humaine sont concernés. Donc, ça nécessite une pensée très ample, qui ne soit pas unilatérale. Ça, c'est une chose capitale. Et la deuxième chose, quitter un mode de pensée linéaire, où on avait l'impression que l'histoire progressait et qu'on pouvait prévoir dès maintenant l'année 2030, 2050, etc., sans tenir compte des énormes incertitudes. Il y avait le règne d'une pensée linéaire, d'une pensée purement quantitative qui ne voyait les problèmes humains qu'à travers le calcul, alors que le calcul ne comprend rien de nos émotions et de notre vraie vie. Donc, si vous voulez, le mode de pensée dont nous disposons n'est pas adéquat à penser pas seulement le monde ou nous-mêmes, mais la pandémie.
Quel doit être le changement de paradigme ?
Ça nécessite une réforme de la connaissance. Il ne faut pas seulement changer de vie, il faut changer de voie. Non seulement renoncer à une consommation d'objets futiles et, je dirais, à valeur purement imaginaire, mais revenir à l'essentiel de ce qui est humain, c'est-à-dire les relations, la convivialité. Donc, si vous voulez, il y a une réforme de vie qui devrait sortir, qui malheureusement ne sort pas encore. Il y a une réforme de politique. Il faut introduire le gigantesque problème écologique dans la politique, la lutte contre les pollutions, contre la dégradation des sols, contre la destruction de la biodiversité, contre le changement climatique. Et tout ceci peut donner du travail, mobiliser des forces et créer une économie. Et une économie qui, par ailleurs, aurait un caractère social et qui ferait régresser le pouvoir énorme du profit sur le monde aujourd'hui. Nous avons donc d'énormes problèmes. La pandémie doit nous réveiller et malheureusement, elle n'y arrive pas encore.
Vous avez observé pendant des décennies l'homme, ses ombres et ses lumières. Croyez-vous en sa capacité à repenser notre manière de vivre, notre manière de consommer, mais également d'interagir?
Déjà, très lentement, une certaine manière de consommer a commencé dans une petite fraction de la population, avec un abandon de tout ce qui est encore pollue. Tout ça commence, disons, d'une façon dispersée. Il n'y a pas une force politique cohérente qui permet de donner une telle perspective et d'entraîner largement les populations. On est dans des débuts balbutiants de ce qui pourrait être une réforme de vie.
Le pape François, dans ses vœux lors de votre centenaire, a salué votre volonté d'édifier une société plus juste et plus humaine. Quelles sont les clés pour y parvenir ?
Il y a des préliminaires. Les préliminaires, c'est la prise de conscience de la communauté de destin de tous les êtres humains à l'époque de la mondialisation, c'est-à-dire des périls nucléaires, des périls de la folie fanatique, des périls de la domination du profit. L'humanité est dans une phase de son histoire pleine de périls et en même temps pleine de promesses techniques ou scientifiques. Mais même ces promesses ont un double visage, D'un côté, il favorise l'idée très mauvaise, à mon avis, qui a dominé la civilisation occidentale, de maîtriser la nature et maîtriser le monde. Et le transhumanisme reprend les conquêtes actuelles de la technique, de l'informatique, de l'intelligence artificielle, pour créer un homme soi-disant immortel qui va dominer le monde et les planètes. Ça, c'est une folie. Aujourd'hui, il ne faut pas faire l'homme augmenter, il faut faire l'homme améliorer à partir des sources bonnes qui sont en lui. Nous n'en sommes pas là. La conscience de la communauté destin humaine serait un élément fondamental pour aller vers un autre monde. Parce qu'à ce moment-là, les nations pourraient se fédérer. À partir de ce moment-là, on pourrait arriver à ce qui est un rêve, mais possible, la paix sur Terre. Donc, c'est un ensemble de conditions qui permettrait ce chemin. Il faut continuer à cheminer avec toujours des problèmes, des conflits, mais où, disons, ce que j'appelle les forces d'Eros prennent de plus en plus de force par rapport à celles de Polémos et de Thanatos. C'est ça le vrai problème, renforcer l'Eros par rapport à Polémos et Thanatos.
Vous avez parsemé votre vie de poésie. C'est elle qui vous a aidé à surmonter les nombreuses épreuves que vous avez connues.
Vous savez, la poésie, c'est pas seulement la poésie des poèmes que j'aime, que je continue à me réciter, qui me soutiennent, qui est importante. Il y a la poésie de la vie. C'est-à-dire que ce qu'avaient dit les surréalistes, que la poésie n'est pas seulement une chose écrite, mais une chose vécue, moi j'en sens la vérité profonde. C'est-à-dire que dans ma conception de l'humain, je trouve que notre vie est bipolarisée entre prose et poésie, que la prose, ce sont les choses que nous faisons par contrainte, qui ne nous plaisent pas, par obligation, pour survivre, mais que la poésie, c'est vraiment vivre. Vivre, c'est s'épanouir, c'est communier, c'est admirer, c'est s'émerveiller, c'est jouir du plaisir, qu'aussi bien esthétique d'une belle musique, que du plaisir de la relation amoureuse, que du plaisir d'un beau paysage ou d'un match de football. Donc, si vous voulez, la poésie de la vie permet toujours la communion avec autrui ou la communion avec le monde, avec les choses. Et donc, je pense qu'on oublie que tellement de gens sont condamnés à la prose et qu'ils mériteraient de pouvoir accéder. Ils ont toujours quelques petits moments de poésie, mais pas assez. Moi j'ai, dans le fond, ce n'est pas le bonheur que je... J'ai jamais cherché le bonheur. Le bonheur, il m'est arrivé par chance, par un ensemble de conditions que je n'avais pas soupçonnées au départ. Et ce bonheur a pu durer quelques mois ou quelques années, mais finalement se dissoudre par la perte, la mort de certains. Enfin bref, le bonheur n'est pas durable, ce sont des périodes merveilleuses. Mais la poésie, c'est une chose qu'elle, vous pouvez l'entretenir toute votre vie, et elle vous donne un sentiment de bonheur.
Dostoïevski disait « La beauté sauvera le monde ». Vous pensez que la poésie sauvera le monde ?
Elle sauverait le monde si elle est vraiment appliquée, parce qu'elle comporte en elle le mot de beauté.
À quelle source pouvons-nous aujourd'hui puiser pour réenchanter nos vies ?
Les sources, elles sont multiples, parce que le réenchantement vient de ce que je disais sur la poésie de la vie. Dès que vivez poétiquement, alors ça, vous pouvez le trouver aussi bien dans vos relations avec autrui, quand ces relations sont intenses, ouvertes, pleines de fraternité ou d'amour. Ça, vous pouvez le trouver aussi dans les beautés de l'esthétique, Je crois qu'il faut se nourrir aussi de culture, je veux dire de littérature, de musique, de poésie, de beaux-arts. Donc, si vous voulez, les sources sont dans notre potentialité d'être humain, que se manifeste dès l'enfance l'émerveillement. Alors, c'est ça le grand problème, parce que la vie, elle présente des cruautés, elle présente des horreurs. Quand on regarde, par exemple, ce qui se passe en Afghanistan aujourd'hui, on ne peut pas s'émerveiller, on a au contraire un sentiment terrible. En ce moment, en France, il y a le procès des terroristes qui ont fait un massacre dans la salle du Bataclan. C'est une chose horrible qui vous marque, même si vous n'avez pas du tout le désir de vengeance que je n'ai jamais eu, mais vous avez un sentiment atroce, il y a ça. Mais si on est capable de s'émerveiller, on puisse la force de se révolter contre ces cruautés, horreurs. Donc, il ne faut pas perdre la capacité d'émerveillement et d'enchantement.